Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. Plus rapide, plus économique et plus sûr. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient, l'heure d'appel sur l'actualité, vous pouvez évidemment commenter l'actualité. Ce matin, on va revenir sur la visite très controversée d'Omar El-Béchir en Afrique du Sud, c'était il y a 8 jours lors du sommet de l'Union africaine et la polémique prend de l'ampleur. Pourquoi les autorités sud-africaines n'ont-elles pas arrêté le président soudanais qui est pourtant sous le coup de 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide? Pourquoi le gouvernement a-t-il laissé repartir Omar El-Béchir, alors que la haute cour de Pretoria avait interdit son départ? Voilà les questions qui sont posées depuis quelques jours par l'opposition et la justice sud-africaine. Le gouvernement doit donc s'expliquer. Hier, les députés du parti au pouvoir ont tenté de se justifier. Ils ont affirmé que le président soudanais bénéficiait d'une immunité car il participait à une réunion de l'organisation continentale. Il n'était donc pas en visite d'État. Alors que vous inspire cette polémique? Dites-nous si l'Afrique du Sud aurait dû arrêter finalement Omar El-Béchir. Plusieurs centaines de réactions au standard sur les réseaux sociaux. On commencera d'ailleurs, vu l'ampleur et l'engouement que suscite ce sujet, on commencera le débat un peu plus tôt que d'habitude. Le standard vous attend, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, et la page officielle de l'émission sur Facebook, c'est RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. On va s'intéresser à la perspective de l'élection présidentielle en Guinée, on en parle déjà, le scrutin est prévu pour le mois d'octobre. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Anne, bonjour Olivier, Roger et Nathalie Amar.
Ah, Nathalie Amar, qu'on retrouve évidemment avec plaisir tous les soirs, et Olivier Roger qui est déjà dans ce studio, vous êtes bien informé.
Bonjour Moussa.
Olivier Roger, journaliste au service Afrique d'RFI, on vous écoute.
Merci Anne. Selou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne et président de l'UFDG, a fait l'alliance en début de semaine avec Capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte guinéenne, en vue de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Alors, je voudrais savoir comment ce rapprochement politique est accueilli au sein de l'UFDG quand on sait que la plupart des victimes du 28 septembre 2009 proviennent de cette formation politique.
Ouais, on rappelle que le 28 septembre 2009, plus de 150 personnes ont été massacrées par les militaires. Olivier Roger, c'est vrai que les ennemis d'hier sont désormais des alliés politiques. C'est une alliance pour le moins surprenante.
Oui, et c'est une alliance qui a provoqué un certain questionnement, pourrait-on dire, voire un certain malaise chez les militants de l'UFDG, le parti de Selou Dalein Diallo. Les réactions sur les réseaux sociaux notamment témoignent de ce questionnement. Beaucoup de militants se demande si la fin, c'est-à-dire la victoire à la présidentielle, justifie les moyens, c'est-à-dire cette alliance avec un homme que beaucoup considèrent jusqu'à présent comme le responsable des massacres du 28 septembre 2009, responsable moral au moins. Et pour reprendre les mots d'un militant, même enrobé de cendres, Dadis reste une braise brûlante. Alors, les militants s'interrogent, ils se questionnent. Pourtant, dans l'état-major de l'UFDG, j'ai contacté plusieurs personnes hier, eh bien officiellement, tout le monde soutient la ligne de son leader, de Selou Dalein Diallo, et personne ne remet en cause cette alliance.
Oui, Selou Dalein Diallo qui justifie donc ce rapprochement pour des raisons purement politiques, et on voit bien, il évacue toute question morale.
Oui, pour l'instant, il évacue la question morale. Il justifie cette alliance par la nécessité de renforcer justement ses liens avec d'autres partis, alors qu'il a perdu à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, un allié de poids avec le départ de Sidya Touré et de son parti, l'UFR, avec qui il était en alliance électorale aux législatives dernières. Donc Selou Dalein Diallo veut en quelque sorte briser l'isolement politique dont il craint d'être victime à l'approche de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, le camp du président Alpha Condé, le RPG, affirme régulièrement que l'UFDG est isolé sur l'échiquier politique, et Dalein Diallo veut démontrer le contraire. Il justifie aussi son alliance par le fait que pour l'heure, Dadis est vierge de toute inculpation, et c'est vrai d'ailleurs, puisque Dadis a été entendu à titre de témoin par une commission rogatoire il y a un peu plus d'un an. Et Dalain Diallo pointe du doigt la justice guinéenne qui, depuis 5 ans, ne l'a pas inculpé. Donc il dit d'une certaine façon, si la justice ne l'inculpe pas, c'est pas à moi de l'accuser et c'est pas à moi d'en faire un coupable de ces événements du 28 septembre. D'ailleurs, il va même plus loin puisqu'il dit que Alpha Condé, le président, devrait regarder de son côté puisque des personnes inculpées dans cette affaire du stade du 28 septembre ont conservé leurs fonctions au sein de l'appareil d'État, notamment le colonel Claude Pivy. Alors, l'argument vaut ce qu'il vaut, hein, puisque Dalain Diallo dit « Ne me reprochez pas quoi que ce soit, car vous aussi, vous avez des choses à vous reprocher. » Je vous laisse juge de cet argument, il vaut ce qu'il vaut. En tout cas, cette manœuvre politique de Sellou Dalain Diallo est extrêmement risquée. Si elle donne des résultats, c'est-à-dire si Sellou Dalain Diallo remporte l'élection d'octobre 2015, à ce moment-là, effectivement, on peut se poser des questions. Que fera-t-il s'il est président et si la justice veut organiser un procès des responsables du 28 septembre? Que fera-t-il si, entre-temps, Dadis Camara, son allié, est inculpé? Et s'il ne remporte pas cette élection présidentielle, eh bien, cette manœuvre sera aux yeux d'une partie de ses militants une faute politique et il risque, aux yeux de ses militants, ceux qui le critiquent, ou au moins une partie de l'électorat, il risque de passer pour celui qui a pactisé en vain avec le diable.
Oui, les militants de Sellou Dalain Diallo qui composent essentiellement la liste des victimes du 28 septembre 2009. D'ailleurs, ce jour-là, Sellou Dalain Diallo, lui-même en personne, était dans le stade. Il avait été blessé, roué de coups par les militaires et on se souvient, dans les mois qui ont suivi, et même les années qui ont suivi, Dalain Diallo accusé Moussa Dadis Camara d'être responsable de ce massacre. Moussa, vous avez une autre question?
Oui. Est-ce que cette alliance va-t-elle basculer la région forestière, région natale de capitaine Dadis Camara, en faveur de l'UFDG, jusqu'ici fidèle au poster Alpha Condé? Quand on sait qu'en Guinée, l'élection est tout à fait communautaire.
Moussa Dadis Camara, une chose est sûre, c'est qu'il continue d'être populaire, notamment, surtout, j'ai envie de dire, dans sa région natale, la Guinée forestière.
Voilà. Alors, essayons d'abord de comprendre effectivement l'enjeu que représente la Guinée forestière. Pour l'instant, la Guinée forestière n'a pas de leader politique naturel en ce moment. Jean-Marie Doré, qui fut longtemps l'un des représentants de la Guinée forestière, est vieillissant, et une autre personnalité comme Faya Milimono est encore, on va dire, un peu jeune, et ne s'est pas encore imposé comme l'un des leaders naturels de la Guinée forestière. C'est donc en quelque sorte une région à prendre pour les différents candidats à la prochaine élection présidentielle. Il y a un très fort bassin électoral et bien sûr tout le monde s'y intéresse de près. Ce qui est certain, donc vous l'avez dit, c'est que Dadis bénéficie d'une forte popularité en Guinée forestière et notamment au sein de la communauté Guersée, sa communauté d'origine. Ça c'est indéniable. À tel point d'ailleurs qu'en 2010, lors de la campagne électorale, le candidat Alpha Condé avait obtenu une partie des votes en forêt en promettant de favoriser le retour de Dadis Camara au pays. Ce qui est sûr aussi, c'est que les Guersés ne représentent pas toute la Guinée forestière et que dans d'autres groupes, Konyanké, Kissi ou Thomas, la popularité de Dadis Camara n'est pas aussi importante. Et d'ailleurs, Alpha Condé, Sidya Touré, Dalain Diallo ont déjà des bastions politiques très forts en Guinée forestière. Maintenant, il est difficile de mesurer l'impact que pourrait avoir, par exemple, un retour de Dadis Camara dans sa région naturelle. Et le fait qu'il y batte campagne, surtout pour l'instant, on ne sait pas. On sait que effectivement les Guersés vont l'applaudir, mais on ne sait pas l'effet que ça pourrait avoir en termes électoraux et on ne sait pas non plus si l'électorat de Moussa Dadis Camara se reporterait automatiquement sur Sellou Dalain Diallo en cas d'accord de désistement mutuel entre ces deux hommes. Donc c'est assez difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'il y aura un report de voix? Est-ce que cette alliance peut faire basculer la Guinée forestière? Pour l'instant, je pense qu'il faut encore donner du temps au temps et laisser voir l'évolution des choses. Mais ce qui est certain, c'est que ce retour de Dadis Camara sur la scène politique inquiète beaucoup de monde, intéresse beaucoup de monde.
Et suscite beaucoup de réactions au standard, on en parlera d'ailleurs demain, ce sera le débat du jour.
Et plusieurs candidats auraient souhaité se retrouver à la place de Sellou Dalain Diallo, à commencer par exemple Papa Koli Kourouma, qui n'est pas encore candidat et qui ne le sera peut-être pas d'ailleurs en 2015, mais qui l'était en 2010 et qui a fait un très bon résultat en Guinée forestière. Il fut le premier à applaudir la candidature annoncée par Moussa Dadis Camara le mois dernier.
Affaire à suivre. Merci beaucoup Olivier Roger, merci d'avoir d'une certaine certaine façon, aussi planter le décor pour le débat de demain. Je ne doute pas que le sujet suscitera beaucoup de réactions au standard. En tout cas, le retour annoncé de Moussa Dadis Camara il y a maintenant 15 jours avait suscité beaucoup de réactions. Donc on reviendra sur cette thématique. Nous vous donnerons à nouveau la parole. À bientôt Olivier Roger et merci à Moussa qui nous appelait de Conakry. Il est 10h20 ici à Paris. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On prend le temps évidemment pour vous expliquer ce dont vous souhaitez mieux comprendre. On a José qui nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Congo-Brazzaville et vous avez des questions sur les sanctions européennes contre la Russie.
Effectivement. Mais je sais que le fait des gouvernements pour appliquer de nouvelles sanctions à la Russie. À quoi consistent ces nouvelles sanctions ?
Alors, les nouvelles sanctions, alors pour l'instant, on n'est pas encore sur des nouvelles sanctions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lundi, en début de semaine, les chefs de la diplomatie de l'Union européenne ont prolongé de 6 mois les sanctions qui sont en vigueur depuis maintenant près d'un an. Bonjour Muriel Pomponne.
Bonjour José, bonjour Juan.
Vous êtes la correspondante d'RFI à Moscou. Alors effectivement, le G7, il y a 2 semaines, s'était dit prêt à renforcer les sanctions contre la Russie si Moscou ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu de Minsk. En quoi pourraient consister ces nouvelles sanctions ?
Alors pour commencer, on va faire l'inventaire sur ce qui existe déjà, puisque c'est ce qui existe déjà qui a été renouvelé. Pour l'instant, il n'y a pas d'extension des sanctions. Alors pour l'instant, donc, il y a un embargo sur l'importation et l'exportation des armes et des matériels militaires en provenance et à destination de la Russie, y compris ce qu'on appelle les biens à double usage. Il y a les limitations sur les exportations et les transferts de technologies, par exemple les exportations d'équipements destinés à la recherche en eau profonde qui sont interdites. Et puis, il y a surtout les sanctions financières. Hein. C'est-à-dire que les Européens ne peuvent plus acheter ou vendre des obligations ou des actions émises par les grandes banques d'État russes, les grandes compagnies énergétiques russes et les entreprises de défense. Alors, il y a également des sanctions spécifiques qui touchent la Crimée, qui ont d'ailleurs également été renouvelées. Et puis, on en a parlé récemment, il y a la fameuse liste noire, c'est-à-dire 151 personnes qui ne peuvent pas obtenir de visa pour l'Union européenne et dont les avoirs peuvent également être gelés en Europe. Il y a également 37 entités ou entreprises qui sont concernées. Un mot juste sur les sanctions américaines qui visent également à peu près les mêmes secteurs, c'est-à-dire la défense, l'énergie, la finance.
Ouais. Le réseau s'est complètement dégradé avec notre auditeur de Pointe-Noire. Il voulait savoir quels sont les impacts réels de ces sanctions sur l'économie russe. Ces sanctions ont évidemment un impact, hein, puisqu'elles frappent, on a bien compris, des pans entiers de l'économie russe.
Absolument. Alors souvent les Russes disent que ça n'a pas beaucoup d'impact, mais Vladimir Poutine lui-même a admis en décembre dernier au cours de sa conférence de presse que les sanctions entraient pour 25 à 30% dans les causes de la chute du rouble. Globalement, c'est l'estimation que font les économistes qui estiment, même les plus conciliants, que les sanctions entrent pour 25 à 30% dans les causes de la crise économique que connaît la Russie, sachant que les deux causes principales, eh bien, c'est la chute du prix du brut et évidemment des causes structurelles de l'économie russe comme la dépendance de l'économie aux matières premières et l'absence d'investissement. Alors, c'est surtout l'impossibilité pour les banques russes de se financer sur les marchés étrangers qui a pénalisé l'économie russe. Environ un an après l'instauration des sanctions financières, la situation des banques russes est toujours extrêmement délicate. Et dans le même temps, les hommes d'affaires prennent peur et ils placent leurs capitaux à l'étranger. Quant aux investisseurs, évidemment, ils hésitent à venir en Russie puisqu'ils ne peuvent pas investir dans un secteur sous sanctions. Et malgré la volonté des politiques, eh bien, il n'est pas évident de se financer sur les marchés asiatiques. Et les contre-sanctions, elles, vous savez, l'embargo sur les produits agroalimentaires d'origine occidentale, qui sont censés doper la production interne, eh bien, en fait, elles ne fonctionnent pas aussi bien que ça, puisqu'il est difficile de produire, évidemment, quand on n'a pas d'argent pour investir.
Ouais, et j'imagine que les sanctions européennes qui touchent le secteur de l'énergie font également très mal à la Russie.
Absolument. Pour simplement maintenir son niveau de production de pétrole au niveau actuel, la Russie doit investir parce qu'il faut qu'elle compense l'épuisement naturel des champs de pétrole qui sont exploités actuellement. Or, les compagnies pétrolières russes peinent à se financer et les restrictions sur les exportations technologiques compliquent l'exploration. Par exemple, la grande compagnie russe Rosneft est allée jusqu'à demander l'aide de l'État russe fin 2014 pour honorer ses dettes.
Muriel Pomponne, qu'on est en train de perdre, qu'on a même perdu. Problème de réseau entre Paris et Moscou, réseau téléphone, évidemment, on va essayer de rétablir tout cela. On a des problèmes avec notre auditeur à Pointe-Noire et notre correspondante à Moscou. En tout cas, bon, on va essayer de la... Jousset est là, mais si Jousset est là, c'est très bien. Jousset, j'espère que vous entendiez et compreniez toutes les explications de Muriel Pomponne qu'on essaye évidemment de rappeler. Muriel, vous êtes avec nous de retour ? Alors, non, on me dit que non. Donc, on va passer tout de suite au débat, vu le nombre d'appels que je vois déjà sur mon écran. Et on rappellera Muriel Pomponne demain pour la suite des explications. Et ne vous inquiétez pas, Jousset, vous aurez tous les commentaires nécessaires pour bien comprendre ces sanctions européennes contre la Russie. Place donc au débat du jour, le dossier Omar El-Béchir. Vous êtes toujours aussi nombreux. Omar El-Béchir qui suscite la polémique, surtout en Afrique du Sud, puisque les autorités l'ont laissé quitter le territoire lors du sommet de l'Union africaine, alors qu'il fait l'objet de deux mandats d'arrêt de la CPI, que la haute cour de Pretoria avait même interdit son départ du territoire sud-africain. L'opposition et même la justice sud-africaine exigent aujourd'hui des explications du gouvernement. Hier, il y a eu une séance au Parlement particulièrement électrique. L'opposition a même accusé le gouvernement de s'être rendu coupable d'un crime en laissant partir Omar El-Béchir. Le parti au pouvoir a essayé de minimiser cette affaire en disant, mais écoutez, Omar El-Béchir n'était pas là en tant que chef d'État, en tant que en visite d'État, mais en tant que participant à un sommet de l'Union africaine. Vos réactions sont nombreuses. Francine est avec nous, elle nous appelle de Paris. Bonjour Francine.
Oui, bonjour Juan.
Soyez la bienvenue, on vous écoute. Est-ce que vous comprenez cette polémique ?
Oui, je comprends cette polémique, mais je suis persuadée que l'Afrique du Sud aurait dû arrêter Omar El-Béchir, parce que ce pays est signataire de la Convention de Rome. En plus, la justice sud-africaine était en train de statuer sur le cas d'Omar El-Béchir avant que l'exécutif sud-africain organise cette exfiltration d'Omar El-Béchir pour le soustraire en fait à la justice et à l'effet du mandat international que la justice sud-africaine était en train d'étudier.
Oui, vous dites d'une certaine façon que le gouvernement a organisé la fuite d'Omar El-Béchir. Alors il y a eu des informations qu'ont été diffusées dans la presse sud-africaine. Le Sunday Times, par exemple, a révélé qu'il y avait une réunion entre plusieurs ministres, notamment ministre de la Défense, de la Sécurité, etc., justement, pour permettre à Omar El-Béchir de quitter le pays, ce qui a été immédiatement démenti par le gouvernement. Comment vous expliquez l'attitude du gouvernement sud-africain ? Pourquoi laisser partir Omar El-Béchir, alors qu'il y a deux mandats, quand même, de la CPI ?
Je suis assez étonnée tout de même, hein, parce que ce faisant, l'Afrique du Sud tourne un peu le dos à son histoire, à l'histoire de la lutte contre l'apartheid, parce que c'est réellement la mobilisation internationale d'un certain nombre d'organisations de défense des droits humains qui ont aidé l'ANC à vaincre le régime de l'apartheid, et c'est cette mobilisation qui s'est poursuivie et qui a abouti à la création de ce tribunal international pour connaître des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et l'apartheid était considéré comme l'un des crimes contre l'humanité. Donc cette attitude m'étonne un peu.
Ouais. Enfin, ce que dit l'ANC aujourd'hui, donc le parti au pouvoir, c'est qu'elle remet en cause clairement l'impartialité de la Cour pénale internationale. Hier, un ministre, justement, de l'ANC disait, il est temps qu'on réfléchisse sérieusement à quitter la Cour pénale internationale.
Je pense que ce serait une erreur, parce que si les dossiers africains sont les plus nombreux sur les bureaux de la Cour pénale internationale, c'est simplement parce que notre continent est encore celui où les cas de violations massives des droits humains sont encore les plus fréquents. Également le continent où les tribunaux nationaux dans plusieurs pays sont totalement défaillants, et que les instruments de défense des droits humains qui sont prévus au niveau des organisations sous-régionales, des organisations régionales, y compris l'Union africaine elle-même, sont totalement inopérantes. Donc ce n'est pas un hasard si les cas africains sont les plus nombreux sur le bureau de la CPI. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ce que fait la Cour pénale internationale est parfait. Mais c'est une justice internationale qui est en construction et les pays qui ont pu bénéficier de la des vertus et de l'amélioration de la situation des droits humains qui a été possible grâce à cette cour doivent soutenir ce travail et permettre aux imperfections qui existent encore d'être résolues au fur et à mesure.
Merci Francine d'avoir lancé le débat, débat qu'on prolongera dans 10 minutes juste après le journal. Rapidement, ce commentaire sur Facebook. Moussa nous dit « Le monde a besoin de la CPI, je suis pour l'arrestation d'Omar El-Béchir, mais pourquoi tant d'humiliation, pourquoi cette pression sur le continent africain? La CPI ne vise uniquement que les Africains et non les Occidentaux. » Il a raison, il a tort, on prolonge le débat dans 10 minutes.